On mit le feu à la guirlande de la trompette.
Le texte allait vide, des superpositions, des failles, des biffures, fourbis, fibrilles. On voit que je suis à peine revenu de Paris, plutôt que le relire, je le revis. Ça devait être vers la fin avril de l'année 1945. Les armées allemandes étaient désormais en déroute. Pour les fascistes, c'était la débandade. En tout cas, ce village se trouvait déjà et définitivement sous le contrôle des partisans. Après la dernière bataille, celle que Jacopo nous avait racontée justement dans cette maison, il y a presque 2 ans, diverses brigades de partisans s'étaient donné rendez-vous ici pour piquer ensuite droit sur la ville. Ils attendaient un signal de Radio Londres, ils se mettraient en branle quand Milan aussi serait prête pour l'insurrection. Les partisans des formations garibaldiennes étaient arrivés aussi, commandés par Rass, un géant à la barbe noire très populaire dans le coin. Ils étaient habillés avec des uniformes de fantaisie, tous différents les uns des autres, sauf le foulard et l'étoile sur la poitrine, tous deux rouges, et ils étaient armés au petit bonheur la chance, qui avec un vieux bousquet, qui avec une mitraillette arrachée à l'ennemi. Ils faisaient contraste avec les brigades badogliennes au foulard bleu, uniforme kaki semblable à ceux des Anglais, et les flambants neufs fusils-mitrailleurs Sten. Les alliés aidaient les badogliens avec de généreux largages de parachutes dans la nuit. Après qu'était passé, comme il le faisait désormais depuis 2 ans tous les soirs à 11 heures, le mystérieux Pipetto, l'avion de reconnaissance anglais dont personne ne comprenait ce qu'il pouvait reconnaître, étant donné qu'on ne voyait aucune lumière sur des kilomètres et des kilomètres. Il y avait des tensions entre garibaldiens et badogliens. On racontait que le soir de la bataille, les badogliens s'étaient rués sur l'ennemi au cri de « Aventi Savoia !» Mais certains d'entre eux disaient que c'était la force de l'habitude. « Qu'est-ce que tu veux crier en allant à l'assaut ?» Ça ne voulait pas dire qu'ils étaient nécessairement des monarchistes. Ils savaient eux aussi que le roi avait de grands torts. Les garibaldiens ricanaient. On peut crier « Savoia » quand on donne l'assaut à la baïonnette sur un champ de bataille, mais pas en se jetant derrière un angle mort avec son Sten. C'est ce qu'il s'était vendu aux Anglais. On parvint pourtant à un modus vivendi. Il fallait un commandement unifié pour l'attaque de la ville, et le choix était tombé sur Terzi, qui commandait la brigade la mieux équipée, était le plus ancien, avait fait la Grande Guerre, était un héros et jouissait de la confiance du commandement allié. Les jours suivants, avec un peu d'avance, je crois, sur l'insurrection de Milan, ils étaient partis pour s'emparer de la ville. De bonnes nouvelles étaient arrivées. L'opération avait réussi, les brigades revenaient victorieuses, mais il y avait eu des morts. Selon les rumeurs, Rass était tombé au combat et Terzi était blessé. Puis, un après-midi, on avait entendu les bruits des véhicules automobiles, des chants de victoire. Les gens avaient couru sur la Grand Place. Par la route nationale arrivaient les premiers contingents, poings levés, drapeaux, tout un grouillement d'armes aux portières des voitures ou sur les marchepieds des camions. Le long de la route, on avait déjà couvert les partisans de fleurs. Soudain, quelqu'un avait crié « Rass, Rass !» Et Rass était là, accroupi sur le garde-boue antérieur d'une Dodge, la barbe ébouriffée et des touffes de poils noirs couvertes de sueur qui sortaient de sa chemise ouverte sur sa poitrine, et il saluait la foule en riant. À côté de Rass, Rampini aussi était descendu du Dodge. Un garçon myope, un peu plus âgé que les autres, qui jouait dans la fanfare et avait disparu depuis 3 mois. On disait qu'il s'était joint aux partisans. Et en effet, le voici là, avec le foulard rouge au cou, le blouson kaki, une paire de pantalons bleus. C'était l'uniforme de la fanfare de Don Ticco. Mais lui, il avait maintenant un ceinturon avec l'étui et son pistolet dedans. Derrière ses lunettes épaisses, qui lui avait valu tant de railleries de la part de ses vieux camarades de l'oratoire, il regardait à présent les filles qui se pressaient à ses côtés comme s'il était Flash Gordon. Jacopo se demandait si par hasard Cecilia se trouvait là parmi ces gens. En l'espace d'une demi-heure, la place fut colorée de partisans et la foule appela Terzi à grands cris, et elle voulait un discours. À un balcon de la mairie, Terzi était apparu, appuyé sur sa béquille, pâle, et de la main il avait tenté de calmer la foule. Jacopo attendait le discours parce que toute son enfance, comme celle des jeunes de son âge, avait été marquée par de grands et historiques discours du Duce, dont on apprenait par cœur les citations les plus significatives à l'école, c'est-à-dire qu'on apprenait tout par cœur, car chaque phrase était une citation significative. Le silence revenu, Terzi avait parlé, d'une voix rauque, qu'on entendait à peine. Il avait dit « Citoyens, mes amis, après tant de douloureux sacrifices, nous voici là, gloire aux morts pour la liberté. » Et ce fut tout, il était rentré. Cependant, la foule criait, et les partisans brandissaient leurs mitraillettes, leurs stènes, leurs mousquets, leurs vieux fusils 91, et ils tiraient les rafales de fête avec les douilles qui tombaient tout autour d'eux, et les gamins qui se glissaient entre les jambes des hommes armés et des civils, parce qu'ils n'en feraient plus une récolte pareille avec le risque que la guerre prenne fin dans un mois. Mais il y avait eu des morts. Par un hasard atroce, tous les deux de San Davide, un village en amont de celui-ci, et les familles ont demandé la sépulture dans le petit cimetière local. Le commandement des partisans avait décidé que ce devaient être des funérailles solennelles, compagnies en formation, chars funèbres décorés, orphéons de la municipalité, père prévôt de la cathédrale, et la fanfare de l'oratoire. Don Tico avait tout de suite accepté. D'abord, disait-il, parce qu'il avait toujours été de sentiments antifascistes. Ensuite, comme murmuraient les musiciens, parce que depuis un an il faisait étudier en guise d'exercice deux marches funèbres qu'il devait bien un jour ou l'autre faire exécuter. Et enfin, disaient les mauvaises langues du coin, pour faire oublier Giovinezza, l'hymne fasciste. L'histoire de Giovinezza s'était passée comme ça. Des mois avant, que n'arrivent les partisans, la fanfare de Don Tico, de sortie pour je ne sais quelle fête patronale, avait été arrêtée par les brigades noires. « Jouez Giovinezza, mon révérend !» lui avait commandé le capitaine en tambourinant de ses doigts sur le canon de sa mitraillette. « Que faire ?» Comme il apprendrait à dire par la suite. Don Tico avait dit « Les gars, essayons. La peau, c'est la peau. » Il avait donné la mesure avec sa clé et l'immonde ramassis de cacophoneux avait traversé le village en jouant quelque chose où seul l'espoir le plus forcené de revanche sur l'honneur militaire perdu aurait permis de reconnaître Giovinezza. Une honte pour tous. Pour avoir cédé, disait après Don Tico, mais surtout pour avoir joué comme des salopios. Prêtre, oui, et antifasciste, mais avant tout, l'art pour l'art. C'est un jour où Jacopo n'était pas là, il souffrait d'une amygdalite. Il n'y avait qu'Annibale Cantalamessa et Piobo, et rien que leur présence doit avoir radicalement contribué à l'écroulement du nazifascisme. Mais pour Belbo, le problème était ailleurs, du moins au moment où il en écrivait. Il avait raté une autre occasion de savoir s'il aurait su dire non. C'est peut-être pour cela qu'il était mort pendu aux pendules. Bref, on avait fixé les funérailles pour le dimanche matin. Sur la place de l'église, tout le monde était là, Terzi avec ses troupes, l'oncle Carlo et certains notables de la commune, avec leurs décorations de la Grande Guerre. Peu importait de savoir qui avait été fasciste et qui non, il s'agissait d'honorer des héros. Et il y avait le clergé, l'orphéon de la municipalité en habit sombre, et les chars avec les chevaux uniformément caparaçonnés de blanc crème, argent et noir. L'automédon était vêtu comme un maréchal de Napoléon, bicorne, cape et capote, de même couleur que le harnachement des chevaux. Et il y avait la fanfare de l'oratoire, casquette, blouson kaki et pantalon bleu, brillante de cuivre, noire de bois et scintillante de cymbales et de grosses caisses. Entre le village et San Davide, il y avait 5 ou 6 kilomètres de tournant en montée. Des kilomètres que les retraités, le dimanche après-midi, parcouraient en jouant aux boules. Une partie, un arrêt, quelques fiasques de vin, une deuxième partie et ainsi de suite jusqu'au sanctuaire au sommet. Quelques kilomètres de montée ne sont rien pour qui joue aux boules, et peut-être n'est-ce rien de les parcourir en formation, les armes sur l'épaule, le regard tendu, en respirant l'air frais du printemps. Mais il faut essayer de les couvrir en jouant d'un instrument, les joues gonflées, la sueur qui perd la grosse goutte, le souffle qui vous abandonne. L'orphéon de la mairie ne faisait rien d'autre depuis une génération, mais pour les gars de l'oratoire, ça avait été une épreuve. Ils avaient tenu en héros. Don Tico battait sa clé en l'air, les clarinettes glapissaient, épuisées, les saxophones bêlaient, asphyxiés. Le bugle et les trompettes lançaient des sonneries d'agonie. Mais ils y étaient arrivés, jusqu'au petit village, jusqu'au pied de la côte qui menait au cimetière. Depuis longtemps, Annibale Cantalamessa et Piobo faisaient seulement semblant de jouer, mais Jacopo avait assumé son rôle de chien de berger sous l'œil bénissant de Don Tico. En comparaison de l'orphéon municipal, il n'avait pas fait piètre figure. C'est ce qu'avaient dit aussi Terzi et les autres commandants des brigades. « Bravo les gars, ça a été vraiment superbe !» Un commandant, avec le foulard bleu et un arc-en-ciel de ruban des deux guerres mondiales, avait dit « Mon révérend, laissez souffler les petits gars au village, ils n'en peuvent plus, montez après, à la fin, il y aura une fourgonnette qui vous reconduira au village. » Il s'était précipité dans la gargote, et ceux de l'Orphéon, vieux gus rendus coriaces par d'innombrables funérailles, sans retenue aucune, s'étaient jetés sur les tables en ordonnant tripes et vin à volonté. il resterait à faire ribote jusqu'au soir. Les gars de Don Tico s'étaient par contre pressés contre le comptoir où le patron servait des sorbets à la menthe, verts comme une expérience chimique. La glace coulait d'un seul coup dans la gorge et faisait venir un pincement douloureux au milieu du front, telle une sinusite. Ensuite, ils étaient remontés vers le cimetière, où attendait une camionnette. Ils étaient montés en criant, et se trouvaient maintenant tous entassés, tous debout, se heurtant avec leurs instruments, quand était sorti du cimetière le même commandant, et il avait dit « Mon révérend, pour la cérémonie finale, nous avons besoin d'une trompette, vous savez, pour les sonneries rituelles, une affaire de 5 minutes. »« Trompette !» avait dit Don Tico professionnel. Et le malheureux titulaire du privilège, suant le sorbet vert et aspirant au repas familial, indolent campagnard imperméable à tout frémissement esthétique et à toute solidarité d'idées, avait commencé à se plaindre qu'il était tard, que lui voulait revenir à la maison, qu'il n'avait plus de salive, etc., etc., mettant dans l'embarras Don Tico, pris de honte devant le commandant. C'est alors que Jacopo, entrevoyant dans la gloire de midi l'image suave de Cecilia, avait dit « Si lui me donne sa trompette, moi j'y vais. » Lumière de reconnaissance dans les yeux de Don Tico. Soulagement sué du sordide trompette titulaire. Échange des instruments comme deux sentinelles. Et Jacopo s'était avancé dans le cimetière, guidé par le psychopompe au ruban d'Addis Abeba. Tout autour était blanc. Le mur battu par le soleil, les tombes, la floraison des arbres de clôture, le surplis du prévôt prêt à bénir, sauf le marron fané des photos sur les pierres tombales. Et la grande tache de couleur faite par le peloton rangé devant les deux fosses. « Mon gars, » avait dit le chef, « toi, tu te places ici à côté de moi, et au commandement, tu sonnes le garde-à-vous, et puis, au commandement, le repos. C'est facile, non ?»« Très facile, à part que Jacopo n'avait jamais sonné ni le garde-à-vous ni le repos. » Il tenait la trompette de son bras droit replié sous ses côtes, la pointe légèrement en bas comme on fait avec une carabine, et il avait attendu, tête haute, ventre rentré, poitrine sortie.